Jean-Roger Bion à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 7 mars 2024. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel confirme la date du 24 mars pour la tenue de l'élection présidentielle.
C'est des soulagements parce que vous voyez actuellement, il y a les crises partout. Et puis quand on n'organise pas une élection et qu'on gagne un nouveau président, est-ce que cela peut changer? C'est la question qui doit se poser.
Les réactions à Dakar dans la partie magazine. Enlèvement de masse dans le nord du Nigeria, plus de 100 femmes portées disparues. L'ambassadeur américain en Israël optimise pour une trêve dans la bande de Gaza alors que la délégation du Hamas a quitté les négociations au Caire. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'adresse ce soir aux deux chambres du Congrès. Son quatrième discours sur l'état de l'Union à 8 mois de l'élection présidentielle. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel s'est aligné sur le 24 mars pour la tenue de la présidentielle fixée par la présidence. Dans sa décision rejetant la date du 2 juin, le Conseil avait retenu auparavant le 31 mars. Nathalie Barge.
Les décrets pris par le président sont conformes à l'exigence d'organisation du scrutin avant la fin du mandat du président Macky Sall le 2 avril, a souligné le Conseil constitutionnel. Ayant fixé hier la présidentielle au 31 mars, il précise aujourd'hui n'avoir fait que pallier l'inertie de l'administration en retenant initialement cette date et a laissé entendre que l'exécutif a corrigé cela en convoquant le corps électoral le 24. Avec cet ajustement, les Sénégalais peuvent entrevoir une sortie de crise. Les candidats doivent à présent organiser leurs campagnes respectives dans un temps réduit. La présidence a déjà annoncé que le Premier ministre Amadou Ba a été libéré de son poste pour mener la sienne. Aussi, dans le cadre d'une sortie de crise, les parlementaires ont adopté hier une loi d'amnistie des actes liés aux violences politiques. Le PASTEF, le parti dissous d'Ousmane Sonko, réclame que Bassirou Diomaye Faye et tous les autres membres sortent de prison pour faire campagne. 19 candidats sont en lice pour la présidentielle.
Les chefs d'état-major des armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont annoncé mercredi la formation d'une force conjointe destinée à lutter contre les groupes terroristes qui sévissent dans la région du Sahel depuis des années. Les contours et les effectifs de cette force n'ont pas encore été précisés, mais les trois pays ont exprimé leur conviction que les efforts conjugués permettront de créer les conditions d'une sécurité partagée, a déclaré le général Moussa Salahou Barmou, le chef d'état-major des armées nigériennes. Au Ghana, le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, John Mahamat, a désigné une ancienne ministre et universitaire comme sa colistière. C'est la deuxième fois que M. Mahamat choisit Jane Opoku Adjemang comme colistière. L'élection est prévue le 7 décembre et s'annonce serrée entre le New Patriotic Party du président Nana Akufo-Addo et le National Democratic Congress, le parti de M. Mahamat. M. Akufo-Addo se retire après 2 mandats. Ghana toujours, un tribunal a condamné ce mercredi 4 personnes, dont un policier et un militaire, à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour avoir dirigé une organisation séparatiste illégale. Le groupe séparatiste en question, le Front de Restauration du Togolang, accusé d'avoir attaqué des postes de police et bloqué des routes près de la frontière avec le Togo en 2020 dans le cadre d'actions visant à réclamer l'indépendance d'une région baptisée Togoland occidentale. Au Nigeria, plus de 100 femmes sont portées disparues dans l'état de Borno, dans le nord-est, après un enlèvement de masse attribué à des djihadistes, ce qui relève un précédent bilan qui faisait état d'au moins 47 femmes kidnappées. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Des chefs de milices d'autodéfense accusent le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest d'être à l'origine de cette attaque la semaine dernière dans la région rurale de Ngala, dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Il n'y a pas encore de détails sur le nombre exact de personnes portées disparues. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, l'attaque a été perpétrée le 29 février et plus de 200 personnes vivant dans des camps de déplacés ont été enlevées. Mardi, le chef d'une milice anti-djihadiste, Shehu Mada, a indiqué que des femmes provenant de camps de déplacés ont été attaquées par les insurgés de l'ISWAP vendredi. Au Nigeria, les enlèvements, souvent contre rançon, sont un problème majeur. Début février, au moins 35 femmes qui revenaient d'un mariage ont été enlevées par des hommes armés dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du pays.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le mouvement de population fuyant les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 s'est poursuivi ce jeudi dans le nord Kivu. La rébellion continue de gagner du terrain selon des habitants. Mercredi, après deux jours d'affrontements, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de plusieurs localités du territoire de Rutshuru, notamment la ville de Nyanzale, provoquant la fuite de plus de 100 000 personnes, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Ce jeudi, la rébellion s'est emparée dans la même région d'une autre localité, Kibirizi, à 30 km au nord-est de Nyanzale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ambassadeur américain en Israël a indiqué ce jeudi que les négociations sur une trêve dans la bande de Gaza ne sont pas rompues, alors que la délégation du Hamas a quitté le Caire où se tenaient des discussions depuis dimanche. Eric Manirakiza.
Il n'y a pas encore d'accord. Tout le monde regarde vers le Ramadan qui approche. Je ne peux pas vous dire que les négociations seront couronnées de succès, mais on ne peut pas encore dire qu'elles sont rompues, a assuré Jack Lew lors d'une conférence de presse à Tel Aviv. Les réponses initiales d'Israël ne répondent pas aux exigences minimales formulées par le Hamas, dit un haut responsable du Hamas. Face au désastre humanitaire, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte tentent d'arracher un accord sur une pause dans les combats avant le Ramadan, qui commence en début de semaine prochaine. L'OPAM a affirmé ce jeudi faire pression afin que Israël permette d'utiliser le port d'Ashdod, situé au nord de la bande de Gaza, pour acheminer de l'aide aux Palestiniens. Selon l'ONU, la famine est quasiment inévitable pour 2,2 millions d'habitants de Gaza.
Israël va persister dans son offensive contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, y compris à Rafah, dans le sud de l'enclave, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Quiconque nous dit de ne pas agir à Rafah nous dit de perdre la guerre. Cela ne se produira pas, a dit le Premier ministre en marge d'une cérémonie de remise de diplôme dans une école militaire. Grand rituel annuel de la vie politique américaine, le discours du président sur l'état de l'Union prend cette année un relief particulier. Joe Biden va chercher ce soir, devant les deux chambres du Congrès, à faire décoller sa campagne contre Donald Trump. Les détails avec Deli Dico.
À 21h, heure locale, au Capitole, le responsable du protocole de la Chambre des représentants va clamer la formule rituelle. Monsieur le Speaker, le président des États-Unis. Et Joe Biden va prendre la parole. Je vous parlerai de nos progrès et de nos projets, a écrit le démocrate de 81 ans, candidat à un second mandat à l'intention de ses compatriotes sur les réseaux sociaux. L'ancien président républicain de 77 ans lui a promis de corriger le discours en direct. Les deux hommes qui ont dominé les primaires sont assurés, sauf surprise, d'être investis cet été par leur parti. L'Amérique s'achemine vers un nouveau duel Biden-Trump lors de la présidentielle du 5 novembre. La liste des invités pour cette occasion solennelle annonce les grands thèmes qui seront abordés par le président Biden. Économie, droit à l'avortement, OTAN, syndicats automobiles, taxes des milliardaires, baisse du coût des médicaments et effacement de certaines dettes étudiantes. Le rituel, souvent interrompu par des tonnerres d'applaudissements, est suivi par une réponse formelle d'un élu républicain.
L'état d'urgence a été prolongé d'un mois à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, en proie depuis plusieurs jours à une forte poussée de violence des gangs, selon la publication ce jeudi du Moniteur, journal officiel de ce pays des Caraïbes. Les autorités qui ont perdu le contrôle de larges zones de la capitale au profit de bandes criminelles ont publié un arrêté instaurant l'état d'urgence sécuritaire sur toute l'étendue du département de l'Ouest, qui comprend Port-au-Prince, pour une période d'un mois. Et puis la Suède est devenue ce jeudi le 32e membre de l'OTAN avec la remise de documents officiels lors d'une cérémonie ici à Washington. Le pays scandinave ayant choisi, après l'invasion russe de l'Ukraine, de mettre fin à deux siècles de non-alignement, tout vient à point nommé, à qui sait attendre, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, faisant référence à un long processus de ratification auprès des 31 membres. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Eric Manirakiza.
L'Afrique est la région du monde où les prix des billets d'avion sont de loin les plus chers pour voyager à l'intérieur du continent, note l'IATA dans son étude. Outre les restrictions mises en place par les États, les taxes très élevées en Afrique pour l'utilisation des services de navigation aérienne ou des installations aéroportuaires, mais aussi le coût élevé du kérosène sur le continent, explique le prix des voyages aériens intra-africains. À la différence de l'Europe qui a ouvert son marché dans les années 1990, il n'y a pas encore un marché aérien africain unifié. Le pouvoir d'achat des Libyens s'est effondré en raison d'une dévaluation de la monnaie et de salaires versés en retard malgré d'importants revenus pétroliers. À la sortie des magasins, les chariots ne sont plus aussi remplis qu'il y a quelques mois, les familles limitant leurs dépenses, même à l'approche du mois de jeûne du Ramadan, marqué habituellement par une frénésie d'achat. Le FMI a octroyé 5 milliards de dollars de prêts supplémentaires à l'Égypte qui a relevé son taux directeur à un record et fait perdre à sa monnaie un tiers de sa valeur face au dollar. Le Caire, dont la dette extérieure a triplé en une décennie, avait procédé à une dévaluation de 50% ces derniers mois. Mercredi, la Banque centrale égyptienne assure qu'elle a autorisé le taux de change à être déterminé par les forces du marché pour juguler l'inflation à plus de 35%.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Le Noble A pour commencer, Francis Ngannou fait face demain à Anthony Joshua.
Oui, 4 mois après avoir fait vaciller Tyson Fury, la star du MMA poursuit son chemin dans la boxe et remet les gants pour défier notre poids lourd des rings, le Britannique Anthony Joshua. Ce vendredi, en Arabie Saoudite, le Camerounais de 37 ans avait choqué le monde des sports de combat pour ses débuts en boxe anglaise le 29 octobre dernier, en envoyant Tyson Fury, champion WBC des lourds et grandissime favori au tapis au troisième round. Francis Ngannou se dit confiant.
Je crois en moi, ce qui ne veut pas dire que je contrôle le résultat. Je crois au fait que je vais faire de mon mieux et que je ne peux pas contrôler le résultat et que, quel qu'il soit, je l'accepterai. Mais je crois en ma détermination, à mon dévouement. Je crois au travail que je fais pour obtenir ce que je veux. Chaque fois que je disposerai d'une ouverture, je la saisirai. Alors ne vous inquiétez pas de la clé ou de l'indice. Je ne laisserai aucune pierre non retournée et aucune opportunité non explorée.
Après Tyson Fury, c'est donc Anthony Joshua, ancien détenteur des titres WBA, IBF et WBO de la catégorie, qui a accepté le défi Ngannou et le deal lucratif qui vient avec. Joshua reste sur une victoire convaincante par arrêt de l'arbitre contre le Suédois Otto Wallin en décembre dernier, sa troisième victoire de 2023.
Nous ne regardons pas au-delà de ce combat. C'est mon objectif principal. Les encouragements et tout le reste, c'est juste la victoire, c'est tout. Je me concentre sur mon plan de jeu et sur ce que je vais faire. Le meilleur gagne toujours. Ce n'est pas sorcier de dire que le meilleur gagne toujours. Mais l'une des principales choses que j'attends avec impatience, c'est de montrer à quel point je suis bon.
Le boxeur britannique Anthony Joshua, avec cette deuxième incursion sur un ring, Francis Ngannou poursuit donc son chemin en boxe anglaise, la discipline qui le faisait rêver, avant qu'il ne se consacre aux arts martiaux mixtes.
Basketball avec les résultats de la nuit dernière en NBA.
Les Golden State Warriors, humiliés 140-88 par Boston dimanche, ont vite retrouvé leur esprit en dominant largement les Milwaukee Bucks 125-90, malgré les 23 points de Gianni Antetokounmpo côté Bucks. Stephen Curry, lui, a inscrit 29 points. Le Magic d'Orlando est parvenu à enchaîner une 5e victoire de rang face aux Wizards 119-109. À Houston, les Los Angeles Clippers ont compté 20 points de retard dans le deuxième quart-temps avant de s'appuyer sur le trio Kawhi Leonard, 28 points, Paul George et James Harden, 21 points chacun, pour abattre les Rockets 122-116 et glaner leur 40e succès. Et puis, Joel Embiid manque toujours aux Sixers. La franchise de Philadelphie s'est inclinée 115-109 sur son parquet face à Memphis.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, le débat autour de la présidentielle a pris une tournure inattendue. Hier, le président Macky Sall a fixé la date au 24 mars. Le soulagement est grand malgré quelques interrogations. Le reportage à Dakar de notre correspondant Wani Johnson Sambou.
C'est avec beaucoup de surprise que les Sénégalais ont appris la nouvelle. La présidentielle aura lieu donc le 24 mars prochain. Alors que beaucoup craignaient une nouvelle crise institutionnelle après le rejet des recommandations du dialogue national par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall a, contre toute attente, décidé de se plier à l'avis des sept sages. Un soulagement pour ces Sénégalais rencontrés à Dakar.
Bien sûr que oui, c'est des soulagements parce que vous voyez actuellement, il y a les crises partout et puis quand on n'organise pas une élection et qu'on gagne un nouveau président, est-ce que cela peut changer? C'est la question qui doit se poser. Donc vraiment, c'est pas une nouvelle ça, c'est juste que fixer la date et puis les Sénégalais vont aller dans les urnes voter et choisir leur candidat. C'est simple.
Comme ils ont choisi la date du 24 mars, je suis d'accord qu'on organise les élections et qu'on en finisse, que les gens retrouvent la paix parce que les gens sont inquiets. Les Sénégalais veulent travailler et passer à autre chose que de faire de la politique en permanence. Les Sénégalais montrent en effet un certain ras-le-bol face à la crise née du report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février dernier. Ousmane Sène, analyste politique, regrette les atermoiements qui ont conduit à cette impasse.
Vraiment, on était sur le point d'organiser une élection. On a reporté cette élection, mais depuis lors, on a vu que le Sénégal fonctionne sur l'inédit. Tout est inédit, les décisions qui sont prises, c'est le cas de jurisprudence. Ensuite, ce qui a été inscrit dans la Constitution, qui a été fixé, qui était un rendez-vous connu et reconnu de tous, si maintenant on arrive à presque limiter ça à ce qu'on appelle au nécessaire, c'est compliqué.
Une situation dénoncée par l'opposition radicale qui estime que le président Macky Sall aurait pu épargner les Sénégalais de cette crise. Mais, même si cette volte-face du chef de l'État est perçue comme une victoire, les Sénégalais ne sont peut-être pas à l'abri de nouvelles surprises, préviennent les analystes. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Au Rwanda, un jeune handicapé excelle dans la manipulation des outils informatiques et une jeune dame aveugle enseigne à des élèves sans handicap. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe nous en dit plus.
Bizaninimana Jean-Pierre vit au nord du Rwanda avec handicap. Il n'a pas fait de main, malgré son défi physique qui l'a déterminé à devenir un expert en technologie et poursuit ses études secondaires avec détermination.
Mes études à l'école maternelle, primaire et secondaire, je les ai faites avec détermination et je me suis intégré totalement.
À l'école technique, Bizaninimana est passionné des cours de programmation informatique et fait preuve de compétences exceptionnelles, comme en témoignent ses pairs, qui n'ont pas d'handicap.
Jean-Pierre est un élève brillant. Il arrive premier de notre classe. Il obtient un score supérieur à 80% en classe.
À moins d'une année pour terminer ses études secondaires, Bizaninimana aspire à créer une entreprise technologique de haut niveau, car il est convaincu que l'handicap ne peut pas entraver ses rêves.
Une personne handicapée est comme toute autre personne. Elle peut travailler et aller plus loin dans cette vie. Le plus important est la volonté et la passion et cela suffit. Il n'y a aucun handicap qui l'empêcherait de le faire et ainsi réaliser ses rêves.
Surmonter un handicap physique est un pari réussi aussi par Gloria Uamahoro, une jeune fille aveugle. Elle a perdu la vue à l'âge de 3 ans et aujourd'hui, âgée de 30 ans, elle est enseignante de langue à l'école secondaire au nord du Rwanda. Comment réussit-elle à enseigner?
J'ai ici un appareil appelé Orbit Rider qui possède une carte mémoire. J'enregistre mon cours sur une carte mémoire qui le transforme en écriture braille que je parviens à déchiffrer. Je donne les notes aux élèves par avance et à l'aide de mon appareil Orbit Rider, je leur donne les explications nécessaires.
Les élèves de Gloria Uamahoro apprécient son assiduité au travail et n'éprouvent aucune difficulté. difficulté à suivre ses cours.
Nous maîtrisons son cours facilement car nous nous sentons à l'aise avec elle et elle nous fournit toutes les explications nécessaires au cours.
Cette enseignante invite à la valorisation des personnes en situation d'handicap.
Il faut considérer les compétences de quelqu'un avant de s'attarder sur son handicap. J'interpelle les parents, l'handicap n'est pas synonyme d'incapacité.
L'inclusion des personnes en situation d'handicap au Rwanda a permis à ces dernières d'embrasser divers métiers et parviennent ainsi à subvenir à leurs besoins au quotidien. Jean-Thomas Sénimanichiné pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Togo, la lutte contre le trafic des espèces animales endémiques demeure une préoccupation des autorités. Outre des dispositions légales protégeant ces espèces, la traque des trafiquants est menée par la police des frontières et de la marine. 17 tamarins lions dorés et 12 perroquets à race des espèces endémiques viennent d'être interceptés dans les cales d'un navire en provenance du Brésil. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
C'est à une trentaine de kilomètres au large des côtes togolaises que la marine a intercepté un navire transportant les singes et les perroquets. Le temps des investigations, le commandant du navire a pris la tangente avec la cargaison des singes. Il sera vite rattrapé et arrêté. Devant la presse nationale, Neyo Takunyadi, responsable de la préfecture maritime du Togo, explique.
On a retrouvé le commandant à la frontière Togo-Ghana, voulant traverser avec les 19 singes. Il a été interpellé là rapidement, mais deux singes étaient déjà morts. À partir de ce moment, nous avons demandé à dérouter le navire sur le port de Lomé pour mieux comprendre. C'est là qu'on a découvert que c'était un trafic international d'espèces protégées par la convention de CITES.
Neil Bettencourt, l'ambassadeur du Brésil au Togo, s'est réjoui de cette interpellation. Il précise la provenance des animaux.
Les tamarins lions dorés, ils sont trouvés exclusivement dans la forêt atlantique de l'état de Rio de Janeiro. Et les perroquets arara bleus, ils sont trouvés exclusivement dans une région de l'état de Bahia. Il s'agit probablement d'un réseau de crimes organisés qui cause ce dommage, non seulement pour le Brésil, pour tous les pays qui sont victimes de l'activité de ces trafiquants.
La branche locale de l'ONG Eagle International, spécialisée dans la lutte contre le trafic des espèces protégées, a assisté les autorités des deux pays dans la prise en charge des animaux et du volet juridique afin de confondre les trafiquants qui exhibaient de faux permis CITES. Pour le coordinateur Darius Prinam Chei, le Togo est considéré comme une terre de transit de ces espèces protégées.
Les espèces ne sont pas abattues pour la plupart sur le territoire togolais, mais c'est dans les autres pays voisins ou alors les pays de l'Afrique du Centre. Pas plus qu'en décembre 2023, nous avons également appuyé la cellule aéroportière anti-trafic pour pouvoir stopper une cargaison de 40 primates qui provenait de la RDC et qui devrait aller en Thaïlande. Mais c'est ce que Eagle combat pour que notre pays ne soit plus cité aussi dans les rapports internationaux comme étant une plaque tournante du trafic international des espèces phéniques.
Neyo Takunyandi, le préfet maritime du Togo, estime qu'une collaboration est donc nécessaire entre les pays membres du CITES, mais aussi des populations locales pour une lutte plus efficace.
Nous comptons sur chacun, sur toutes ces administrations, la population côtière, dans la lutte contre tous les trafics qui se passent en mer, que ce soit contre les trafics de drogue, les trafics d'armes, ou la lutte contre la piraterie maritime, pour que vraiment la gouvernance maritime soit une réalité.
Il est à rappeler qu'au Togo, le trafic des espèces protégées est passible d'une peine de prison allant d'un à cinq ans et d'une amende d'un million à 50 millions de francs CFA. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Le président américain Joe Biden prononcera ce soir son discours annuel sur l'état de l'Union. Il devrait y évoquer sa gestion de l'économie, la question des droits reproductifs, l'immigration ainsi que les conflits en Ukraine et à Gaza. Mais le président, âgé de 81 ans, profitera également de l'occasion pour démontrer qu'il est en bonne forme physique et mentale pour un second mandat. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, nous en dit plus. Récit Gabi Dorsil.
En cette année électorale, le discours sur l'état de l'Union donne au président Joe Biden une heure devant les caméras pour promouvoir sa réélection, lui permettant de vanter son travail sur les questions qui préoccupent les électeurs, comme l'économie, l'immigration, les droits reproductifs, l'aide à l'Ukraine et à Israël, et en filigrane l'alternative en cas de défaite en novembre. C'est un défi de taille pour n'importe quel président, mais Joe Biden doit aussi faire face à une certaine opposition sur un point qu'il ne peut pas changer. Chris Jackson est vice-président de l'Institut de sondage Ipsos.
L'opinion publique américaine reste préoccupée par l'âge de Joe Biden et c'est, je pense, un défi majeur qu'il devra relever en plaidant pour sa réélection.
La Maison-Blanche a déclaré à la VOA que le président se concentrera sur les problèmes que confronte le pays. John Kirby, conseiller en communication de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale.
Il est très impatient d'avoir l'occasion de parler au peuple américain, au Congrès et franchement au monde entier de toutes ces incroyables réalisations au cours de ces 3 ans et demi en tant que président des États-Unis. De l'économie à l'éducation, en passant par les soins de santé et l'emploi, ainsi que sur la scène internationale, en rétablissant réellement le leadership américain sur la scène mondiale.
Les analystes de la présidence estiment que les propos de Joe Biden seront axés sur la politique, mais que l'essentiel viendra de son débit et des interactions avec le public. Jérémy Souris est professeur d'histoire à l'Université du Texas à Austin.
Je pense qu'il lui plaît d'occuper le podium de la Chambre et de se mêler aux membres du Congrès. Le point culminant de son expérience de l'État de l'Union a été les moments où les républicains l'ont grossièrement défié pendant son discours, le chahutant même, et où il a répondu avec alacrité, humour et ironie, avec beaucoup d'efficacité.
Les analystes de la politique étrangère s'attendent à ce que Joe Biden mette l'accent sur le conflit à Gaza, notant qu'il a invité des parents d'Américains pris en otage par le Hamas à assister à son discours. Écoutons Mérissa Kourma, directrice du programme Moyen-Orient au Wilson Center.
Les précédents discours sur l'état de l'Union étaient un peu plus axés sur les questions intérieures. Bien sûr, il y a une composante intérieure à la situation de la politique étrangère, en particulier avec le conflit au Moyen-Orient. Mais cela va certainement occuper une grande partie de l'attention du président Biden, parce que c'est aussi ce qui préoccupe les gens.
Les sondeurs, comme Chris Jackson d'Ipsos, affirment qu'un autre homme sera également présent ce soir dans l'esprit des électeurs.
Pour Biden, l'essentiel est de montrer qu'il peut gagner l'élection contre Trump. C'est vraiment la chose essentielle qu'il va devoir montrer, plus encore que de prouver qu'il fait du bon travail avec l'économie ou l'immigration ou n'importe laquelle de ces autres questions.
Bien sûr, Joe Biden aura l'occasion de le prouver dans quelques heures.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, Job Blessed, Peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui, sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.